Chapitre 24. James et Howells suivaient Clemens et Holmes dans l'escalier. Sur le palier du premier étage, Howells effleura la manche de James pour lui faire signe de s'arrêter, tandis que les deux autres continuaient leur ascension.
« C'était la chambre de Sam et Livy », murmura-t-il en montrant une porte au fond du couloir. « Ils avaient acheté un immense lit en Italie avec une tête de lit si superbement sculptée qu'ils posaient toujours leurs oreillers de l'autre côté, afin que, comme disait Sam, cet ornement d'un prix extravagant soit la dernière chose qu'ils voient le soir et la première le matin. John et Alice Day ont apporté leur lit, si bien que la merveille de Sam et Livy est toujours au garde-meuble. »
James hocha la tête, mais Howells ne lâcha pas sa manche. De sa main libre, il lui montra une autre porte dans le couloir.
« J'occupais toujours cette chambre quand je venais en visite. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai été réveillé par un bruit étouffé à une, deux ou même trois heures du matin pour découvrir Sam en chemise de nuit, une queue de billard à la main, parcourant les couloirs à la recherche d'un compagnon de jeu.
« Vous l'accompagniez ?» murmura James.
« Presque toujours. »
La voix de Clemens résonna soudain dans la cage d'escalier.
« Vous venez tous les deux? Vous êtes occupés à fouiller les tiroirs en quête d'un trésor. J'ai besoin d'un partenaire de billard. Le plus grand détective privé du monde ne sait pas jouer et refuse d'apprendre. »
Henry James observa la salle de billard de l'écrivain américain. Les murs mansardés, la pièce était située en haut de la plus haute tourelle de la maison, étaient peints en rouge pâle tirant sur le rose. Au centre trônait la table de billard, un modèle des plus récents d'un mètre et demi sur trois. Les six trous, au coin et au milieu des longs côtés, avaient des poches décorées de passementeries dorées évoquant des chaussettes de Noël. Le sol était recouvert d'un tapis persan aux motifs compliqués, parsemé de rappels d'un rouge plus soutenu. Une cheminée en briques sur le mur du fond laissait imaginer à quel point la petite pièce devait être douillette l'hiver ou les nuits d'été froides et orageuses. À côté de la cheminée, un meuble à étagère en bois brut d'1,50 m de haut était garni de quelques livres et piles de papier. De l'autre côté du billard se trouvait une table sur laquelle était posée une lampe à huile, même si l'éclairage devait être assuré le soir par le grand lustre de cuivre pourvu de quatre lampes à gaz. Au fond, une porte vitrée surmontée d'une imposte en forme d'éventail ouvrait sur un balcon et laissait largement pénétrer la lumière. Le vitrail du carreau central représentait des queues de billard croisées, avec un cigare fumant au milieu, le tout coiffé d'une chope de bière mousseuse.
« Mes armoiries familiales !» déclara Clemens, qui avait déjà allumé un nouveau cigare et faisait les 100 pas entre la cheminée et la table de billard, une queue à la main. « Celle de Shakespeare ne montrait qu'une pauvre plume sur un fond moutarde. La mienne est mieux, je trouve. »
James remarqua que le thème des queues de billard croisées se répétait sur le plafond peint. Dans le coin gauche, au fond, la machine à écrire était posée sur une table plus petite, à côté de ce qui ressemblait à des lingots typographiques en plomb. Holmes s'en était déjà approché.
« Puis-je poser la machine sur cette table-là et l'essayer ?» demanda le détective.
Clemens ne lui accorda qu'un coup d'œil.
« Faites, je vous en prie. »
Il retira son cigare de sa bouche et regarda Howells et James.
« Alors, monsieur James, disputeriez-vous une petite partie avec moi pour désigner le meilleur joueur de billard parmi les écrivains anglo-américains ?»«
Hélas, » répondit James, « je ne joue pas. »
Je n'ai jamais joué.
Je ne prendrai pas le risque de vandaliser ce parfait tapis de feutre vert en apprenant à jouer aujourd'hui.
Non ?
La déception de Clemens était audible.
Vous êtes sûr ? Dans toutes ces variantes, le billard est un jeu des plus distrayants. Et si je joue mal et que je me mets en rogne, je suis sûr de vous amuser. À moins, bien sûr, que vous ne soyez comme ces prédicateurs méthodistes qui condamnent les jurons, les insultes, les propos blasphématoires et autres obscénités imagées. »
James leva la main, paume ouverte, et parut souligner son refus en reculant d'un pas. Au milieu des assises dépareillées, chaises en rotin, rocking chair et deux chaises dignes d'un saloon du Far West, il repéra un fauteuil tapissé et s'y assit.
« Comme vous voudrez, »
dit Clemens en exhalant un nuage de fumée.
« Howells, mon vieil adversaire, cher ami et fine lame, il ne reste donc que vous et moi. Une fois encore. »
Howells alla choisir une queue parmi celles qui étaient posées contre le mur à gauche de la cheminée.
« Vous observerez, » déclara Holmes, « que la carte blanche et vierge que je place dans la machine à écrire est identique en taille, en texture et, pour ce qui est de sa composition,
à celle reçue par Henry Adams, les Hayes et Clarence King pour l'anniversaire de la mort de Clover Adams.
« Comment savez-vous qu'elle est de la même composition ?»
demanda Clemens. « J'ai pris la liberté d'analyser la carte au microscope et avec du matériel de chimie que j'ai apporté à Washington, » répondit le détective. Holmes centra la carte et tapa quelques mots. Tous les autres se rassemblèrent autour de lui. « Elle a été assassinée. » Le détective avait étalé 6 des cartes reçues par les Hayes et une prêtée par Clarence King. Il compara la nouvelle à chacune.
« Vous voyez, dit-il, le petit blanc sur les A, le I légèrement plus haut que les autres lettres, la forme de la boucle du E et l'opacité dans les angles du E majuscule ?»
Aucun ne fit de commentaire. Ces petites imperfections ayant été portées à son attention, James dut admettre qu'elles provenaient bien d'une même machine à écrire. Il remarqua aussi qu'elles étaient plus distinctes sur la carte que Holmes venait de taper. Le détective parut lire dans ses pensées.
« L'usure a accentué ses défauts, expliqua-t-il. Puisque les 7 cartes originelles que nous avons ici sont exactement identiques, j'en déduis qu'elles ont toutes été tapées en même temps, donc il y a au moins 7 ans, puisque les Hayes, King et sans doute M. Adams ont reçu la première en décembre 1886. »
Clemens tendit les mains, poings serrés l'une contre l'autre, comme s'il attendait les menottes.
« J'avoue, je me laisserai emmener sans résistance. »
Holmes réprima l'ombre d'un sourire.
« Je suppose, monsieur Clemens, qu'il n'aurait pas été difficile à l'un de vos invités de s'introduire dans cette pièce à un moment de la journée et de passer quelques minutes à taper quelques dizaines de cartes. »«
C'est tout à fait possible, »
acquiesça Clemens, coinçant le cigare entre ses dents et retournant à la table de billard.
« Même la nuit, personne d'autre que moi n'aurait remarqué le bruit de la machine et ne s'en serait étonné. »
James s'éclaircit la gorge.
Vous n'avez pas eu besoin de votre machine à écrire ces dernières années quand vous étiez en Angleterre et en Europe ?
Demanda-t-il.
Apparemment pas,
répondit Clemens. Se penchant sur la table de billard, il écarta les bras et les coudes en un mouvement étrange mais gracieux.
Ces dernières années, j'ai recommencé à écrire à la main et les quelques fois où j'ai voulu disposer d'une version dactylographiée de mes manuscrits, j'ai engagé un ou une dactylographe qui a fourni la machine en plus de ses compétences.
Pourrais-je abuser, monsieur Clemens, en vous demandant les noms et dernières adresses connues de tous les employés qui ont travaillé pour vous en 1886 ?
La liste doit se trouver quelque part dans la maison,
grommela Clemens.
Je vous la trouverai avant qu'on reparte aujourd'hui. Peut-on reprendre notre partie à présent ?
Faites donc, dit Holmes. Clemens envoya la bille blanche taper contre un groupe d'autres billes. 3 d'entre elles tombèrent dans des poches. Clemens se redressa et enduisit de craie le bout de sa queue, alors que Howells, sourcil froncé, se penchait à son tour sur la table.
« C'est ce qu'on appelle avoir une chance de cocu !»
déclara Clemens.
« Avez-vous tenu un livre d'or entre 1885 et le début de vos voyages ?» lui demanda Holmes.
« Oui, je ne crois pas que nous l'ayons mis au garde-meuble. Il y a un tiroir dans la table à laquelle vous êtes assis, monsieur Holmes. Oui, soulevez ce napperon. »
Holmes sortit 4 cahiers reliés de cuir. «
Puis-je ? » s'enquit le détective.
Clemens hocha la tête. Howells frappa la bille blanche qui en carambola 2 autres et heurta 2 bandes avant de finir dans une poche.
« Bon sang de bonsoir, » marmonna l'ancien éditeur.
« Je vais reformer le paquet correctement et nous allons recommencer, » dit Clemens. « Je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivé à apprécier davantage le billard à poche que le carambole qui m'a volé tant de temps, d'énergie et d'argent pendant ma jeunesse. La plupart des tables en Angleterre et en Europe n'ont même pas de poche. »
Pendant que Clemens récupérait la bille blanche et rassemblait les autres vers un triangle de bois, Holmes dit
« Monsieur Clemens, votre famille et vous avez reçu des centaines de visiteurs par an, semble-t-il. »
« Oui, enfin... »
Clemens ne termina pas sa phrase.
« Je n'ai rien à cacher, monsieur Holmes. Et je suis d'autant plus serein que j'ai subrepticement coupé les pages sur lesquelles Madame Lafargue et sa troupe de danseuses du ventre avaient écrit leur nom et laissé leurs commentaires sur leur visite. »
Holmes leva les yeux des cahiers remplis de centaines de paraphes.
« Peut-être, si c'est possible... »«
Oui, oui, »
dit Clemens.
« Ces 4 livres d'or couvrent toute la période allant de 1885 à notre départ en juin 1891. Tous les noms des gens qui ont passé une nuit ici y figurent. Emportez les cahiers, mais assurez-vous que M me les rende en parfait état. car je suis certain qu'un jour, mes biographes en feront leur chou gras.
Merci, marmonna Holmes, mais je n'aurai pas besoin de vous les emprunter. Il me suffit de mémoriser les pages de décembre 1885 et de l'année 1886.
Et Holmes se plongea dans un premier cahier, suivant du doigt la colonne de noms inscrits sur une page, avant de passer à la suivante.
« Vous pouvez mémoriser ces centaines de signatures et de commentaires rien qu'en les regardant une fois ?»
demanda Clemens. Il paraissait dubitatif. Le doigt de Holmes s'arrêta et il leva les yeux.
« Malheureusement, ma mémoire est ainsi faite depuis mon plus jeune âge. Dès que je vois quelque chose, je peux m'en souvenir quand je veux. C'est plus une malédiction qu'un don.
Mais ça doit être terriblement pratique dans votre métier, »
intervint Howells.
« Parfois, oui. Mais il m'a fallu des années pour apprendre à oublier délibérément des choses dont je n'avais pas l'utilité. »«
Rappelez-moi de ne jamais jouer au poker avec vous, monsieur Holmes, »
dit Sam Clemens. Mais Holmes s'était déjà replongé dans le livre d'or de 1886, son doigt glissant rapidement sur les pages. Clemens haussa les épaules et fit signe à Howells, qui se pencha en avant, visa la bille blanche et l'envoya frapper le triangle formé par les autres sphères. Les billes roulèrent et s'entrechoquèrent. Une tomba dans une poche. Howells continua, il envoya une deuxième bille dans une poche, une troisième, puis échoua au quatrième coup.
« Je suppose qu'on fait un jeu de la bite, Sam, » dit-il.
« Ah ah !» s'exclama Clemens, faisant tomber sa cendre dans un cendrier.
« Les suppositions sont choses dangereuses, Howells. En réalité, nous jouons au 14-1. Le premier à 15 a gagné. »
Que pouvez-vous m'apprendre sur la technique du billard, d'après ce que j'en ai vu jusqu'ici ? Demanda Henry James alors que Clemens préparait son coup suivant.
Eh bien, en nous observant, Howells et moi, vous avez dû voir que si votre bille glisse vers sa cible et que le point semble imminent, vous devez lever une jambe, puis hausser une épaule, puis frétiller de tout votre corps. À l'instant où la bille est sur le point d'entrer en contact avec l'autre, vous devez lancer les bras au ciel. Votre queue cassera sans doute un globe du lustre avant de prendre feu au contact de la flamme, comme Howells en a fait la démonstration tant de fois dans cette même pièce. Mais peu importe. Vous avez fait ce que vous pouviez pour parvenir au résultat final.
La partie suivit son cours et Clemens gagna manifestement, quand Holmes, ayant fini d'assimiler le livre d'or, le referma d'un coup sec et déclara
« Vous avez reçu Rebecca Lorne et son cousin en février 86 ?»«
Lorne ?» Lorne ?
Clemens leva brusquement sa crinière léonine.
Ah oui, je me rappelle cette femme et son timide cousin. Comment s'appelait-il ? Carlton ? Non. Clifton. Cliff, avec un seul F, comme le précisait Mademoiselle Lorne. Ah, je ne me souvenais pas que c'était en février 86, sitôt après le suicide de Clover Adams.
Comment les connaissiez-vous ? Demanda Holmes.
Oh, j'avais rencontré Mademoiselle Lorne l'été précédent. Non, plutôt au début de l'automne, juste après la réunion du congrès. J'ai séjourné quelques jours chez les Adams et les Hay, alors que je bataillais pour mes droits d'auteur devant une commission parlementaire. Elle passait pas mal de temps avec Madame Adams, avec Clover. Henry Adams était très inquiet de voir sa femme si malheureuse. C'est la raison pour laquelle je suis parti de chez eux pour m'installer chez les Hay. Rebecca Lorne semblait être la seule amie qui lui rendait visite régulièrement durant cette sombre période.
Mais comment se fait-il que son cousin et elle aient passé une nuit chez vous, ici, à Hartford, 2 mois après la mort de Clover ? Demanda Holmes. Aviez-vous noué une amitié ou entamé une correspondance avec Mademoiselle Lorne ?
Grand Dieu, non ! Si je me souviens bien, ils sont tout simplement passés un dimanche pour présenter leurs condoléances. Un dimanche en milieu de mois, je crois.
Le 14 février,
dit Holmes, dont l'intense regard gris aurait pu effrayer Clemens s'il n'avait pas eu les yeux dans le vague en tentant de se remémorer Rebecca Lorne et sa visite.
C'est ça. Mais n'oubliez pas, monsieur le détective, que c'était il y a plus de 7 ans. Mademoiselle Lorne et son cousin Clifton se sont arrêtés chez nous parce qu'il, ou elle du moins, savait que je connaissais Clover Adams depuis des années. Et ils ont dû dormir ici à cause d'une violente tempête de neige qui s'est abattue cet après-midi-là. Je me souviens que Livy a insisté pour qu'ils restent. Je crois qu'ils étaient en route pour Boston, où ils partaient s'installer.
Clemens s'appuya sur la queue de billard, se collant de la craie bleue sur la manchette, et contempla Holmes d'un regard presque aussi intense que celui du détective un instant plus tôt.
« Pourquoi cet intérêt pour Mademoiselle Lorne, monsieur Holmes ?» Est-elle suspecte dans votre enquête ?
Elle est un facteur inconnu, monsieur Clemens, répondit Holmes, soutenant le regard de l'écrivain. Madame Adams, Clover, ne connaissait Rebecca Lorne que depuis un an. Pourtant, elles semblaient devenues des amies intimes dans les mois et les semaines ayant précédé l'apparent suicide de Madame Adams.
« L'apparent suicide ?» aboya Clemens. « Que voulez-vous que ce soit d'autre ? Henry Adams a lui-même découvert le corps, encore chaud, après qu'elle avait bu la potion de cyanure. »
Tandis que Mademoiselle Rebecca Lorne attendait devant la maison. Mademoiselle Lorne a peut-être été la dernière personne à voir Madame Adams en vie.
« Vous êtes mal informé, Monsieur Holmes !»
répliqua Clemens, son visage s'assombrissant au-dessus de sa moustache blanche.
« Je sais, de la bouche même de Henry Adams, qu'il a trouvé Mademoiselle Lorne en train d'attendre à l'extérieur de la maison, au 1607 Edge Street. Elle était passée voir Clover, mais personne n'avait répondu à son coup de sonnette. »
Holmes hocha la tête. Henry Adams vous a raconté que la femme qui se faisait appeler Rebecca Lorne avait dit avoir attendu dehors quand personne ne lui avait répondu. Mais il est possible que Mademoiselle Lorne ait rendu visite à Clover Adams pendant l'absence de Henry Adams, et qu'il l'ait trouvée après qu'elle fût ressortie du 1607 H Street.
« Ridicule !»
s'écria Clemens. « Possible !» admit Holmes.
« Et qu'entendez-vous par la femme qui se faisait appeler Rebecca Lorne ? Qui d'autre pouvait-elle être ?»«
Bonne question !» répondit Holmes. James avait écouté cet échange avec beaucoup d'intérêt et s'attendait à ce que Holmes sorte sa théorie selon laquelle il l'avait connue sous le nom d'Irene Adler. Au lieu de quoi, Holmes demanda « Durant la courte visite de Mademoiselle Lorne ici, ou lors de vos précédentes rencontres avec elle à Washington, vous a-t-elle donné l'impression d'avoir été un jour familière du monde du théâtre ?»«
Du monde du théâtre ?»
répéta Clemens en allumant un nouveau cigare.
« Je ne vois pas ce que... « Attendez, maintenant que vous le mentionnez, je me souviens d'avoir dit à Livy après leur visite, cette femme est déjà montée sur scène. Oh »« Oui, ciel, je me le rappelle à présent. »«
C'est elle qui vous en a parlé ?» demanda Holmes.
« Non, pas du tout. » »« Mais à un moment, quand le jeune Clifton a marmonné quelque chose au dîner, elle lui a demandé de ne pas parler dans ses bottes. Et à un autre moment, quand nous avons joué au billard, elle l'a encouragé à casser la baraque. » D'après ce que je sais, ces expressions sont rarement utilisées en dehors du théâtre.
Vous pensez vraiment que Rebecca Lorne ait pu être en haut avec Clover Adams quand elle a... quand le poison a été ingurgité ? Demanda William Dean Howells, la queue de billard toujours à la main. Howells n'avait pas ouvert la bouche depuis un si long moment que toutes les têtes se tournèrent vers lui.
C'est possible, dit Holmes.
Il est plus probable que la femme ayant pris le nom de Rebecca Lorne ait été postée dehors pour faire du bruit au cas où Henry Adams rentrerait plus tôt que prévu. Ce qui a été le cas. James sia. C'était la première fois qu'il entendait cette hypothèse et elle lui parut tristement plausible.
Faire du bruit ?
Répéta Clemens sans comprendre. Afin que le prétendu cousin Clifton ne soit pas interrompu dans ce qu'il était en train de faire à l'étage avec Clover. Précisa Holmes.
« Mais Adams est monté tout de suite ?»
fit remarquer Howells le visage blême.
« Il n'a rien trouvé d'autre que le corps de Clover.
Même si l'ancienne maison des Adams était beaucoup plus petite que l'actuelle, elle disposait d'un escalier de service, » précisa Holmes. « Je me suis renseigné. » Sam Clemens exhala de la fumée bleue.
« Il aurait donc pu tranquillement redescendre par cet escalier pendant que ce pauvre Adams montait par le grand. » Et sortir par la porte de derrière, sans doute.
Clemens se tourna vers Holmes.
Connaissez-vous la véritable identité de ce cousin Clifton ?
Oui, répondit Holmes d'une voix très calme, dépourvue de toute note de triomphe ou de supériorité. Il n'y a aucune trace d'un Clifton Richards à Washington ou Boston avant les 6 mois précédant la mort de Clover. C'est lui qui a fourni à Clover Adams la nouvelle solution de développement contenant du cyanure. Il a disparu en janvier 1886, quelques semaines après le décès. Son véritable nom, j'en ai eu l'absolue confirmation hier, est Lucan Adler. C'est un anarchiste et un assassin.
« Mon Dieu !»
s'exclama Clemens, balançant la queue de billard sur le feutre vert de la table.
« Livy et moi avons hébergé des meurtriers ?»« Nous aurions pu être empoisonnés à notre propre table, poignardés la nuit, étouffés dans notre propre lit. »
Holmes eut un petit sourire. « Possible, mais fort peu probable. Ce n'était pas après vous qu'ils en avaient, mais bien après Clover Adams. Ils ont passé des mois à tisser leur toile autour d'elle.
« Mais pourquoi ?»
demanda Clemens.
« Clover a certes vexé certains membres de l'establishment de Washington, mais personne ne la détestait au point de la tuer. »
« C'est ce que je cherche à éclaircir, » dit Holmes. « Pour l'heure, je crains qu'une ancienne actrice et aventurière du nom d'Irene Adler et son fils, Lucan Adler, n'aient organisé la mort de Madame Adams avant tout pour me faire venir aux États-Unis. » Les trois autres ouvrirent des yeux ronds.
« Vous faire venir en décembre 85 ou au début de l'année 86 ?»
demanda Henry James. « Non, me faire venir après la visite de Ned Hooper, qui m'a apporté les indices que sont les cartes, elle a été assassinée. Me faire venir maintenant. » Tout le monde se tut l'espace d'un instant. Puis Clemens prit la queue de billard de Howells, la reposa contre le mur avec la sienne et déclara
« Venez avec moi, s'il vous plaît, messieurs. »
James avait pensé que la visite était terminée. Le brougham et le chauffeur attendaient toujours dans l'allée, mais Clemens les emmena sur une terrasse couverte au premier étage où étaient disposés 7 fauteuils à bascule. La vue d'ici était magnifique.
« Je vous en prie, asseyez-vous, messieurs, » dit leur hôte. « Choisissez n'importe quel fauteuil sauf celui-là. »
Il avait posé les mains sur le dos d'un siège jaune moutarde au coussin bosselé.
Et que Dieu bénisse John et Alice d'avoir tout laissé en place.
Quand ils furent tous installés, Howells et James allumèrent des cigarettes. Holmes tira sur sa pipe. Clemens trouva encore un autre cigare dans une poche, en coupa d'un coup de dent l'extrémité qu'il cracha par-dessus la rambarde, puis l'alluma avec un grognement de satisfaction. James avait déjà fumé le cigare, mais il ne prétendait pas être un connaisseur. Tout juste savait-il reconnaître à l'odeur que Clemens fumait un cigare bon marché. Clemens surprit son regard.
« Avant, je fumais des cigarettes, comme vous, monsieur James. Mais Olivia m'a dit que c'était une habitude dégoûtante et sûrement mauvaise pour ma santé. Donc, partant du principe selon lequel la seule façon de rompre avec une mauvaise habitude est de la remplacer par une autre encore pire, je me suis mis au cigare. »
Howell s'esclaffa, même s'il l'avait sûrement déjà entendu de nombreuses fois.
« Mais je suis scrupuleusement les conseils de modération de Livy, » poursuivit Clemens. Il est rare que je fume plus d'un cigare à la fois.
Avez-vous jamais essayé d'en finir avec cette habitude, monsieur Clemens ? Demanda Holmes. James songea aussitôt à la seringue du détective et à son addiction à la substance, quelle qu'elle soit, qu'il s'injectait quotidiennement. Holmes fumait aussi sans arrêt, alternant entre des cigarettes et sa pipe. Était-il réellement curieux de savoir si Twain avait trouvé un moyen de vaincre son addiction au tabac ?
Oh, bien sûr ! Dit Clemens en riant. « C'est facile d'arrêter de fumer. Je l'ai fait des centaines de fois. »
James vit Howell sourire et Holmes hocher la tête. Cette petite blague et bien d'autres répliques avaient été préparées, répétées et souvent déclamées, mais James n'en voulut pas à Clemens. L'autre écrivain semblait avoir besoin d'un public en permanence. Clemens resta pourtant silencieux pendant un instant et personne d'autre ne parla. On n'entendit plus que le craquement asynchrone des 4 rocking chairs, le chant de quelques oiseaux et le bruissement des feuilles agitées par le vent. James se demanda si les grands ormes, les châtaigniers et les érables avaient commencé à bourgeonner plus tôt que d'habitude cette année. Les cornouillers étaient en pleine floraison. Parfois, à Cambridge, l'hiver ne rendait pas les armes avant d'avoir livré un dernier combat neigeux et glacial aussi tard qu'au mois d'avril. Ça avait été le cas une décennie plus tôt, l'année où ses parents étaient morts et où il avait dû s'attarder en Amérique pour régler la difficile succession. Il se souvint qu'Alice James, l'autre Alice, l'épouse de William, et lui avaient supplié ce dernier par lettre de ne pas rentrer en Angleterre où il passait une année sabbatique. La situation financière était déjà assez compliquée. Entre l'argent revenant à Wilkie et aux autres, la part de la modeste fortune paternelle léguée à Henry et qu'il abandonnait à sa sœur, le rôle joué par Alice et tante Kate dans tout ça. La présence de William n'aurait fait qu'ajouter à la confusion. Son frère était finalement resté en Angleterre, mais non sans avoir menacé une centaine de fois d'embarquer sur le premier bateau en partance pour les États-Unis. Pour Henry, ces quelques mois avaient été tristes, mais aussi profondément satisfaisants. Pour une fois, de manière indubitable et incontestable, il avait été responsable de la famille, de ses finances, de sa sécurité, de son avenir maintenant que les deux parents n'étaient plus, et cette situation lui avait plu. Il avait apprécié d'être libéré de l'ombre de son tout-puissant frère aîné. Le vent fit de nouveau bruire les feuilles, et James admira la vue de cette terrasse en hauteur. Il distinguait le belvédère blanc à la peinture écaillée, où Clemens avait passé des nuits étoilées à parler avec Harriet Beecher Stowe, du moins à l'en croire. James avait lu que la vieille dame, à présent octogénaire, était presque invalide, et qu'elle avait perdu tout intérêt pour la vie ou les idées depuis la mort de son mari. James se rappelait avoir lu la case de l'oncle Tom un an ou deux seulement après sa publication, en 1852. Bien qu'il n'ait eu que 10 ans, il avait vu dans ce mélodrame grossier le roman de propagande qu'il se voulait être. Rempli de stéréotypes et d'exagérations bien peu artistiques, il ne reflétait pas la vie. Mais le jeune James avait aussi senti la colère et l'indignation qui avaient aiguillonné l'auteur et su avec certitude que jamais il ne réussirait à écrire, à peindre ou à créer quoi que ce soit à partir d'une passion aussi brûlante. Son œuvre, quelle que soit la forme qu'elle prendrait, serait entièrement pensée, soigneusement réfléchie, organisée et digérée. Samuel Clemens tourna son fauteuil pour faire face à James.
« J'ai dîné avec votre frère à Florence il y a seulement quelques mois, » dit-il.
« Vraiment ?» répondit James, consterné. Évidemment, William lui avait écrit pour lui raconter la rencontre. Évidemment, William l'avait jugé important, en premier lieu parce qu'il avait pu partager sa sagesse avec ce rustre qui avait dénigré de manière si présomptueuse le roman de son jeune frère Henri. Pourtant, après un grand nombre de plats italiens, arrosés de plusieurs bouteilles de vin, William avait été profondément impressionné par la double personnalité de ce Mark Twain Samuel Clemens.
« Nous avons parlé jusque tard dans la soirée. Les serveurs avaient commencé à balayer et à tousser discrètement pour nous faire comprendre que c'était l'heure de la fermeture, » raconta Clemens. « Et pendant les 2 dernières heures, je n'ai pratiquement fait qu'écouter votre frère. »
« Je n'en doute pas, » songea Henry James. « C'est pareil avec moi, avec sa femme et la plupart de ses interlocuteurs. »«
J'étais très impressionné, »
reprit Clemens. Il se tourna vers les deux autres.
« Vous connaissez les principes de psychologie, le brillant ouvrage de Monsieur William James, tous les deux ?»
Holmes se contenta de hocher la tête, mais Howells déclara avec une feinte colère,
« Si je le connais ?» Non seulement j'ai signé l'une des premières recensions positives du livre, mais c'est moi qui vous l'ai recommandé. Si mes souvenirs sont exacts, j'ai acheté un 2e exemplaire et vous l'ai envoyé en vous enjoignant de le lire, malgré votre aversion pour les livres barbants.
C'est un livre fondamental,
poursuivit Clemens, ignorant l'intervention de Howells.
Et au cours de notre conversation à Florence, William James a approfondi encore davantage sa définition du « je » et du « moi ». Et leurs différences.
Ô ciel, songea James, tentant d'apaiser ses pensées en regardant le belvédère au loin.
Monsieur Holmes!
S'écria alors Clemens, se penchant vers l'homme mince qui portait un costume et une longue écharpe noire malgré la chaleur de la journée.
Ça vous plaît d'être détective?
C'est mon métier, répondit Holmes presque aussitôt. Clemens hocha la tête comme si la réponse le satisfaisait pleinement.
« Le récit publié de vos aventures est en train de devenir très populaire, aussi bien ici qu'en Angleterre, si j'ai bien compris. »
Holmes ne dit rien.
« La façon dont le docteur Watson et Monsieur Doyle présentent vos aventures vous satisfait-elle ? »
insista Clemens. « Je n'ai jamais eu le plaisir de faire la connaissance de Monsieur Doyle, » répondit Holmes. « Quant à l'écriture de Watson, combien de fois ne lui ai-je pas répété que ces petites histoires basées sur mes enquêtes font la part trop belle au drame, voire au mélodrame, et négligent la froide et sûre science de la déduction qu'il aurait pu partager avec des lecteurs intelligents et intéressés. » Holmes se pencha en avant, prenant appui sur sa canne. « De plus, Watson et Monsieur Doyle, son éditeur et agent, craignent de mentionner les noms de gens connus, ou même les vrais noms d'inconnus, ou de citer les lieux et les dates réelles. Cela crée une grande confusion dans les récits eux-mêmes. Les versions publiées n'ont plus grand-chose à voir avec les notes originales figurant dans mes dossiers.
« Mais ça vous plaît d'être détective ?»
demanda de nouveau Clemens.
« C'est mon métier, » répéta Holmes.
Clemens éclata de rire en se donnant une tape sur le genou.
« Bon Dieu ! Je vais écrire un livre intitulé « Tom Sawyer détective ». Entre mon personnage bien-aimé et votre profession, monsieur, je vais vendre 1 million d'exemplaires. »
Holmes ne fit pas de commentaire.
« Profitez bien de votre pipe et vous de vos cigarettes, messieurs, »
s'écria Clemens.
« Car je vais maintenant vous expliquer la brillante définition donnée par Monsieur William James du « je » et du « moi ». Et montrer à Monsieur Holmes en quoi il a peut-être raison de penser qu'il n'existe pas.